Bonjour, nous sommes le 17 mars 2013. Je ne suis plus très sûr de l'heure qu'il fait là-bas. Ici, il est 10h10 en soirée. Je reviens juste du restaurant avec mes amis. Comme vous le savez, je suis en train d'être dans une tournée du Vietnam de 2 semaines. Nous avons été les amis qui sont sur la tournée, on est un groupe de 18 personnes. C'est arrivé des États-Unis et on s'est rejoint à Saigon. À Saigon, nous avons commencé par visiter la pagode Salai, le monument à la mémoire du Bodhisattva Thích Quảng Đức. C'était une expérience très profonde parce que la pagode de Salai était le lieu où la répression des monastiques, des moines et moniales bouddhistes dans les années 60 s'est exercée là, et c'était là le siège social bouddhiste qui a été au centre des manifestations et des représailles, etc. La mémoire, le monument du Bodhisattva Thích Quảng Đức a été érigé à l'endroit où il s'est immolé par le feu. Alors, les personnes qui sont de ma génération s'en souviennent. La photo du moine qui s'est immolé a fait le tour du monde et c'est ça qui a eu un impact sur la guerre du Vietnam et tout ce qui s'en est suivi. Donc, c'est ça, la visite a commencé à Saigon. Ensuite de ça, nous avons été dans Cap Saint-Jacques, qui est une ville côtière à 200 km de Saigon. Et nous avons pu visiter deux monastères. Le monastère du moine Thích Thanh Từ, qui est un ami de un confrère, un collègue, un frère de Thầy Thích Nhất Hạnh. Il est maintenant le maître spirituel d'une vingtaine de centres au Vietnam et peut-être de plus d'une centaine de centres s'il y a un peu partout dans le monde. Les amis ont pu pratiquer et voir comment la pratique de la méditation vietnamienne se fait maintenant dans ces centres. Et c'est dans la tradition de la forêt du bambou que nous allons visiter demain au nord Vietnam. Après le sud, nous avons été au centre du Vietnam et on a pu visiter la ville où Thầy était, Huế. Le temple où il a commencé à pratiquer. Nous avons passé toute une journée de pleine conscience dans le temple de Thầy, qui est le monastère où Thầy a commencé comme novice à 16 ans. Nous sommes maintenant au nord du Vietnam, à Hanoï. Hier, et avant-hier, nous avons été dans le nord du Vietnam. Nous avons pu visiter les centres de Huy Long. Huy Long, c'est là où le bouddhisme a commencé à rentrer au Vietnam avec le maître Tăng Hội. C'est aussi là que le bouddhisme a commencé dans le sud-est de l'Asie et c'est aussi par le centre Huy Long que le bouddhisme s'est propagé pour aller en Chine. C'est une nouvelle pour beaucoup de bouddhistes dans le monde, parce qu'ils ont toujours pensé que le bouddhisme est rentré en Chine avec le Bodhidharma au 6e siècle, alors qu'il y a beaucoup d'indications que le bouddhisme a commencé au 2e-3e siècle avec Maître Tăng Hội à partir du Vietnam pour aller en Chine. Donc, Maître Tăng Hội, selon les évidences des écrits est rentré au Vietnam depuis la fin du deuxième siècle, c'est-à-dire 3 siècles avant l'apparition de Bodhidharma, qui jusqu'à date a toujours été considéré comme celui qui a amené le bouddhisme de l'Inde en Asie. Demain, nous allons aller dans la région de la montagne Hirden, et c'est là le berceau de la tradition de méditation bouddhiste vietnamienne, selon les enseignements que nous disons Hirden, c'est-à-dire la tradition de la forêt des bambous. L'expérience a été très, je ne saurais pas comment décrire les sentiments que j'ai présentement. C'est pour moi un retour aux sources, un retour aux enseignements à la base ou aux origines des enseignements. C'est un grand plaisir, en tout cas, je pense que je ne pourrais pas trouver de mots pour écrire ce que je ressens présentement. Ça va peut-être venir un peu plus tard parce que ce sera marché dans le temple où notre maître a été, marché dans le temple qui ont amené les moines des Indes. C'est tout un retour qui éprouvant, émouvant. Je regrette beaucoup que vous ne puissiez pas être avec moi ici, parce que j'essaie de partager les expériences que je suis en train de vivre. Et je trouve que c'est très difficile à faire parce que je ne trouve pas les mots qu'il faut pour pouvoir exprimer les sentiments que j'ai. Le thème de la journée d'aujourd'hui, pourquoi nous méditons, c'est ça l'idée. Je vais laisser l'enseignement classique à Lily, je vais continuer de vous partager un peu ce que je trouve qui est ce qui se passe ici présentement avec le groupe et qui est en rapport avec le thème du jeu. Comme nous sommes en train de retourner aux sources pour pouvoir le thème de la tournée, le thème de la retraite, que nous appelons la retraite mobile du Vietnam, s'appelle Redécouvrir les racines du bouddhisme vietnamien. Ce thème demande que nous regardions l'histoire du bouddhisme, l'histoire de la transmission du bouddhisme. Alors, dans la transmission du bouddhisme, on peut distinguer trois périodes, trois grandes périodes, et trois grands ensembles d'enseignements. Alors, nous savons qu'il y a la première période qui était la période où le Bouddha enseignait lui-même. Et nous appelons cela le bouddhisme tel qu'enseigné par le Bouddha. Nous savons aussi que peu de temps après la transformation du Bouddha, peu après son Parinibbana, il y a eu beaucoup d'écoles qui se sont formées. Et à chaque école, enseigner le bouddhisme selon, ou les maîtres de ces écoles enseignaient le bouddhisme selon ce qu'ils comprenaient et selon ce qu'ils percevaient des élèves qui les fréquentaient. Et donc, on pouvait dénombrer plusieurs centaines d'écoles, peu de temps après le Parinibbana. Et chaque école enseignait un aspect différent du bouddhisme. Alors, il faut distinguer ce qui constitue les enseignements originaux, ce qui constitue les enseignements bouddhistes des écoles qui ont suivi, Et après cela, c'est l'apparition de ce que nous connaissons qui est le Mahayana. Donc, ce sont les trois grandes périodes et époques de transmission et l'enseignement que nous devons reconnaître pour pouvoir retourner aux sources comme nous voulons le faire avec la retraite, redécouvrir les racines du bouddhisme. Mais en revenant à Lui-Lao, il y a 2 jours, nous avons visité le temple qui a été fondé par le maître Tang Hong. Selon les enseignements, selon les recherches du village des Kumi, à la fin du 2e siècle, il y avait déjà 500 monastiques qui pratiquaient dans le centre Lui-Lao. Et le maître Tang Hong a fait ses études en vietnamien, en chinois et en sanskrit, a enseigné au Vietnam et a amené cet enseignement vers le nord, en Chine. Les écrits principaux du maître Tang Hong consistent en 2 volumes. Le premier volume s'appelle la préface à l'Anapanasati Sutra, l'enseignement sur la respiration consciente. Je pense que Lily a la traduction française de cette préface, et si ça vous intéresse, elle pourra, bien, peut-être que Gilles pourra la mettre sur notre site web, comme ça vous pouvez la consulter. Mais en regardant la préface, l'enseignement sur la respiration consciente, nous pouvons voir comment les pratiquants de méditation bouddhiste vietnamiens ont pratiqué durant cette époque, c'est-à-dire au 2e siècle. On y retrouve beaucoup des pratiques que Thay enseigne maintenant et que nous considérons, ou bien que nous pensons qu'ils sont des enseignements créés par Thay. Ce sont des enseignements qui datent déjà du 2e siècle et que Thay a modernisé, ou bien nous a transmis de façon très adaptée, tellement adaptées que nous pensons qu'elles sont contemporaines, que ce sont des enseignements classiques d'origine. En étudiant la préface, en marchant à Lui-Lao, je ne peux faire autrement que je ne peux pas m'empêcher de penser que je suis en train de marcher aujourd'hui, en 2013, mais que je le fais de la même façon que les pratiquants et les monastiques le faisaient au 2e siècle, parce qu'ils pratiquaient selon les 16 respirations, les 16 respirations telles qu'enseignées par le maître Tang Hong. Les 16 respirations, nous savons, font partie de la première période d'enseignement du Bouddha. Elles font partie des enseignements que le Bouddha a enseignés à ses moines pendant qu'il était encore en vie. Thay Tang Hong l'enseignait comme une pratique dans la tradition Mahayana. Et Thay, dans un enseignement récent, a mentionné un jour, alors que j'étais en train d'enseigner les 16 respirations, je me voyais comme maître Tang Hong en train d'enseigner ces mêmes enseignements. Thay a ravivé ses mis dans la peau de, ou bien, maître ton rôle, c'est ressusciter, ressusciter à travers notre âme. Et parce que nous sommes les disciples et l'être très, nous pratiquons ces enseignements qui proviennent de l'enseignement original du Bouddha. Selon la tradition Mahayana, comme l'a fait notre premier ancêtre spirituel, Tenrai, je me suis vu sans fil de retour chez moi. Donc, c'était, ce sont les expériences que je suis en train de vivre. Lui, là, s'est retourné au deuxième siècle. Demain, nous allons poursuivre et nous allons être bientôt avec les maîtres Teng Haitong et Teng Yintong, ceux qui ont suivi le maître Zheng Wenguan du 13 et 14e siècle. Et 13 et 14e siècle, qui constitue aussi la dernière époque où le bouddhisme était pratiqué selon cette tradition que nous appelons la tradition du bouddhisme vietnamien. Parce que après la dynastie Tang, le bouddhisme a connu un recul à cause de l'influence du confucianisme, du taoïsme et des autres courants de pensée, et qui a teinté le bouddhisme vietnamien de cette tradition chinoise. Ce que Thay est en train de faire, c'est de ressusciter le bouddhisme vietnamien, tel qu'enseigné par le maître Tangho du deuxième siècle. Et aussi, selon les enseignements qui ont suivi jusqu'au 13-14e siècle avec la dynastie Tang, pour être bon. C'est ce que, qui nous est enseigné, et c'est aussi ce que l'œuvre de Thay pour offrir cet enseignement au monde entier. Et le même travail est aussi fait par le maître Tang. Donc je vous ai mentionné et que nous avons pu visiter au début du voyage à Saigon et à Montau. Qu'est-ce que ces maîtres enseignaient dans le temps? Aujourd'hui, nous parlons de la méditation. Les écoles que j'ai mentionnées, le bouddhisme du Vietnam, est une pratique de méditation. Et les maîtres de méditation de cette tradition définissent la méditation de la même façon que nous l'avons appris avec Thay. La première signification du mot méditation que nous connaissons, c'est la contemplation. La contemplation d'un objet. Alors, méditer sur quelque chose, c'est contempler cet objet. Le deuxième sens de la méditation est aussi d'être en contact avec, avec cet objet, ou bien cet objet d'observation. C'est de rentrer en contact avec. Le troisième sens de ce mot, c'est celui que Maître Tang Hoi a utilisé, c'est l'élimination. L'élimination de ceux qui brouillent la vue, de ceux qui nous rendent plus confus, de ceux qui nous frustrent. La méditation veut dire éliminer ces facteurs qui nous font souffrir. Et la quatrième signification du mot de la méditation, c'est la concentration. Donc, notre concentration sur ce qui va gérer sa racine, qui nous permet de pouvoir le pénétrer et le comprendre par la force de notre concentration. Et donc, si nous acceptons ces quatre définitions, ces quatre éléments de la méditation que nous faisons avec les 16 respirations, nous permet de la voie de la méditation selon ces quatre définitions que nous pratiquons afin de pouvoir contrôler. Je n'aime beaucoup nous contrôler. Il ne faut pas non plus les mots qu'il faut. C'est de regarder, d'utiliser la méditation pour pouvoir observer, entrer en contact, pénétrer ces aspects qui nous font souffrir, comme lorsque quelqu'un nous dit quelque chose et qui arrose nos graines de colère. Comment faire avec la pratique de la méditation pour pouvoir regarder et comprendre que cette parole qui vient de nous toucher déclenche tout ce processus de manifestation de la colère. Et donc, la pratique de la méditation, c'est cette pratique qui nous permet de pouvoir être vigilants, de pouvoir être attentifs à l'apparition de ces dangers, d'être conscient du processus qui commence par le contact entre les facteurs qui sont à la base des 17 éléments et la pratique de la méditation bouddhiste, c'est de pouvoir être en contrôle pour ne pas être entraîné par ce processus qui nous amène dans les places que nous ne voulons pas. Les places de douleur, de colère que nous qualifions de souffre. Ce qui permet de faire cela, c'est la pratique que nous connaissons, qui consiste à protéger nos 6 portes, tout ce qui nous met en contact à travers de nos yeux, de nous prenez en fait de nos 6 organes sensoriels, comment les identifier, comment faire pour pouvoir pratiquer selon l'image que Ananda a décrit, selon laquelle Ananda décrivait le Bouddha, une forteresse avec 6 portes d'entrée, les 6 étant constamment gardées par les 6 sentinelles. Et toujours avec la pratique de la méditation, comme nous comprenons, il y a aussi, c'est aussi la cultivation du bonheur. Ce sont les 3 aspects qui ont été enseignés par les maîtres du temps, le contrôle du corps et de l'esprit, la surveillance et le monitorage des 6 sens et la pratique ou la voie du bonheur. Toujours dans l'enseignement du maître Tang Hong, il parle des 4 méditations. La première méditation, nous l'avons déjà mentionné, c'est la joie qui provient de l'élimination. L'élimination des objets de nos désirs, par exemple. Nous savons que ces objets de désir peuvent nous entraîner dans des états de souffrance. Et la méditation, pour pouvoir les neutraliser ou les éliminer, est la première méditation qui s'appelle la joie qui provient de l'élimination. La deuxième méditation, c'est la joie qui provient de la concentration, qui est le deuxième niveau de méditation. La première, qui consiste à éliminer les objets du désir, procure une joie qui n'est pas aussi profonde que celle qui provient de la concentration. Le troisième niveau de méditation consiste à transcender, dépasser la joie des deux premiers niveaux de méditation, parvenir à cet état de paix et de calme. Parce que la joie que procure les deux premiers niveaux de méditation est encore une joie qui est, si je peux utiliser le terme de profond ou de clair. Mais le troisième état, où la joie est beaucoup plus profonde et stable, c'est un grand bonheur calme qui provient de la réalisation ou du dépassement des premiers niveaux de méditation. Et le quatrième niveau de méditation, selon l'enseignement de notre Tao, c'est celui qu'on peut qualifier de l'état d'équanimité, où il n'y a plus de différence, il n'y a pas de question, il n'y a pas de la liste entre le bon et le moins bon ou le mauvais. Mara et Bouddha sont la même réalité. Il n'y a aucune différence. Donc, ce sont les quatre états de méditation qui ont été enseignés dans les quatre niveaux d'enseignement. Quatre niveaux de méditation, les résultats de méditation. Et pour y parvenir, les maîtres qui ont suivi ont chacun insisté ou mis plus ou moins d'importance sur différentes pratiques. L'enseignement du maître Tanghong, pour y parvenir, nous avons eu la chance d'écouter, consiste dans les six paramitas. Les six paramitas, cette collection que le maître Tanghong a écrit, qui consiste à, où il l'a recueilli, toutes les histoires originaux du Bouddha, il les a classifiées selon les six paramitas. Les six voies pour parvenir à l'éveil. Donc, c'est un sommaire très grossier de ce que nous sommes en train de vivre dans notre traite, mais j'espère pouvoir les exprimer de façon plus claire, plus ordonnée, lorsque je serai de retour à notre et que je vous verrai à la retraite de mon avis. C'est un tas de sensations, de sentiments, de connaissances que je suis en train de recevoir, et donc c'est encore une pierre à l'état brut que j'espère que nous aurons la chance de pouvoir regarder et travailler ensemble. D'accord, alors donc c'était pour vous partager, comme je vous l'ai mentionné, ce que je suis en train de vivre, c'est quelque chose qui est très bizarre, très familier, surtout pour nous. Pour nos nouveaux amis, notre pratique, la pratique qui découle de tout ce dont je vous ai parlé et que je suis en train de redécouvrir, est très simple. C'est simple parce que notre maître a étudié en profondeur les enseignements de base et les a épurés et les a concentrés dans des pratiques qui sont très simples. Je suis en train de faire le travail inverse pour voir d'où les enseignements que nous avons appris et pratiqués depuis une vingtaine d'années à Montréal avec la maison pleine conscience, à la maison pleine conscience, pour m'émerveiller devant l'intelligence et le gros travail de débroussaillage que notre maître
et tous les maîtres qui l'ont précédé ont fait pour pouvoir nous offrir cet enseignement. Alors la pratique de la méditation à la maison de pleine conscience peut se résumer en une phrase très simple. Il n'y a pas de voie vers le bonheur. Le bonheur, c'est la voie. Et cette phrase très simple est un des quatre enseignements de la méditation et qui est aussi une synthèse, un résultat des quatre niveaux de méditation et des quatre définitions de la méditation selon les enseignements originaux et les enseignements des grands. Ou qu'attendez-vous pour être heureux? Toutes les conditions de notre bonheur sont déjà là. C'est aussi l'enseignement de la forêt des bambous. C'est aussi l'enseignement de la non-atteinte. C'est aussi l'enseignement de la non-discrimination. Que nous sommes déjà et que nous possédons déjà tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous avons toujours recherché. Et il nous suffit de pratiquer le retour. Je suis chez moi, je suis arrivé pour pouvoir toucher à cette place qui est déjà en nous et que nous pouvons toucher à chaque instant avec la pratique de la respiration consciente. Je suis chez moi, je suis arrivé à cette place où nous sommes en sécurité, où nous sommes en présence de tous les grands êtres. Et la clé qui nous l'est donnée, qui nous permet de pouvoir le faire, c'est l'essence de respiration. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire, je me calme. J'expire, je subis. Je reviens à l'instant présent. Le passé n'est plus. Le futur est encore à venir. Le futur dépend du présent. Le présent est fait du passé. Et les trois temps se rassemblent dans cet instant unique et merveilleux. Et lorsqu'on est dans cet instant unique et merveilleux, qui est composé du passé et qui est aussi le début du futur, nous nous retrouverons avec tous les grands maîtres, puis le temps de l'hiver et ceux qui l'ont précédé, et tous les maîtres qui nous enseignent les enseignements et qui nous ont transmis pour pouvoir nous permettre, nous aussi, de réaliser les quatre niveaux de méditation, la parfaite économité, et transcender toutes les causes de notre présence. Les 6 paramitas, les 16 respirations, revenir à l'instant, ici et maintenant. Pratiquer les enseignements du village de Kuni, tel que nous l'enseigne notre maître, de pratiquer le bouddhisme tel qu'il a été enseigné par le Bouddha et par tous les autres qui ont suivi. Pratiquer la joie de l'instant, pratiquer l'instant présent, pratiquer de façon continue. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous enseignons, c'est ce que nous pouvons faire ensemble. Alors donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là pour nous supporter. Votre présence est un encouragement. Votre présence est notre raison d'être. Votre présence nous rassure et nous encourage. J'espère pouvoir vous revoir à la Villa Saint-Martin le mois prochain. Donc, bonne journée. À la prochaine. En personne.